Merci beaucoup à Adri et son équipe de nous avoir conduits dans ces champs ce matin. Je vous invite maintenant à chercher dans vos Bibles la première lettre de Paul aux Corinthiens que nous étudions depuis quelques mois. 1 Corinthiens 15 ce matin, chapitre 15. Nous allons lire la deuxième partie. La France en ce moment s'intéresse à la retraite. Et ce passage nous invite à nous intéresser à l'après-retraite. Alors voyons ce que Paul dit en 1 Corinthiens 15, verset 35 et suivant. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Aussi, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. C'est un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ainsi la parole de Dieu. Alors ce texte, c'est l'exposé magistral d'une des grandes doctrines chrétiennes qui est la résurrection du corps. Les chrétiens croient, d'après la Bible, que notre destinée, notre avenir, est un avenir matériel, un avenir physique, on pourrait presque dire un avenir charnel, si le mot charnel n'avait pas une mauvaise connotation. En tout cas, notre destinée, c'est un nouveau corps dans un nouveau monde. Et c'est ça la vie éternelle pour les chrétiens. Cette croyance nous distingue de ceux qui croient qu'il n'y a rien après la mort, comme nombreux de nos contemporains, mais aussi ceux qui croient à une réincarnation. Et c'est aussi différent de ceux qui croient dans un au-delà, mais qui est vague, immatériel, on ne sait pas trop. La vision chrétienne est autre, la résurrection du corps. Alors c'est vrai, ce texte est souvent lu lors des obsèques et des inhumations dans les cimetières, ou encore à Pâques, où on parle de la résurrection. On y pense un peu moins à Noël. Nous voici à Noël. Pourquoi on parle de la résurrection des morts? Alors déjà, nous étudions 1 Corinthiens, mais je dirais que c'est très lié, ce texte et Noël. À Noël, nous célébrons, comme nous avons déjà chanté et fait ce matin, nous célébrons l'incarnation de Dieu. C'est-à-dire Dieu fait chair en Jésus. Dieu est devenu homme. C'est Jésus-Christ. Mais cette idée, tout comme la résurrection du corps, n'était pas facile pour les Grecs de l'époque à accepter. Corinthe, c'est une ville au cœur de la Grèce, donc la pensée grecque est partout à Corinthe. Et la pensée de l'incarnation comme la résurrection n'était pas facile pour les Grecs à accepter, parce que les Grecs, oui, ils savaient faire des belles sculptures, des statues, mais pour eux, le corps avait aussi un côté sensuel, charnel, impur. Alors pour eux, c'était choquant, voire dégoûtant, qu'un Dieu, un Dieu saint, veuille se salir à ce point de s'incarner dans un corps humain. Il y avait un philosophe grec de l'époque qui s'appelle Cels, il débattait des chrétiens et il disait, mais n'importe quoi, un Dieu ne voudrait jamais un corps comme le vôtre. Passez par un utérus, mangez votre nourriture humaine, la foie gras par exemple, est-ce qu'un Dieu voudrait vraiment manger la foie gras? Être sujette à la faiblesse, c'est absurde, Zeus, Apollon, il voudrait pas ça. Est-ce que c'est absurde? En ce moment, je lis un petit traité qui s'appelle « Sur l'incarnation » d'Athanase. Black Friday, c'est pas tout mauvais parce que c'était quasiment gratuit sur Amazon. Petit traité sur l'incarnation d'Athanase, un père de l'Église, donc ça revient au IIIe siècle et il connaissait bien les pensées grecques autour de lui, il était en Égypte. Mais il a donné cette illustration que j'ai trouvée très intéressante dans cet exposé sur l'incarnation, il a dit « Lorsqu'un roi important vient dans une ville et demeure quelques jours dans une maison, cette maison devient célèbre, cette maison acquiert une dignité, une honneur. » L'autre jour, c'est vrai, je sortais du métro, c'était à Paris, j'ai vu Henri IV a demeuré dans cette maison pendant 2 mois, et ils ont fait un statut, et maintenant c'est l'hôtel de ville. Donc quand un roi habite dans une maison, cette maison prend de l'honneur. Et il dit « c'est la même chose avec l'incarnation ». Quand Dieu est devenu homme, quand il a demeuré dans un corps humain, quand il a logé dans un corps humain, ça donne une dignité, ça donne une importance à notre existence humaine, à notre vécu dans un corps. Ça donne une valeur à l'individu, ça donne une valeur à son corps. Et nombreux philosophes ont reconnu l'impact bouleversant de cette vérité chrétienne sur le monde de l'époque et qui a impacté toute l'histoire de l'Occident, notamment, où la foi chrétienne a eu un impact. Et ça avait un impact sur les droits de l'homme, sur les progrès de la médecine, sur les questions éthiques, même sur les pompes funèbres. Voilà, on sait que même un corps, même après un corps décédé, on ne va pas juste le mettre à la poubelle, parce qu'il y a une dignité au corps humain. Et tout ça vient... Tout ça vient de la vision chrétienne sur le corps que l'on voit dans l'incarnation à Noël et ce matin aussi dans la résurrection. Mais à l'époque, la résurrection des morts, comme l'incarnation, était un obstacle pour les Grecs parce qu'eux, ils aspiraient à une chose, c'était libérer l'âme de ce corps qui se fatigue, qui se corrompt, qui a des tentations. Eux, ils voulaient détacher l'esprit, détacher l'âme du corps pour être enfin libre. D'ailleurs, on retrouve un peu cette pensée dans le bouddhisme et les religions orientales où on veut atteindre un état très spirituel sans le corps. Et on a déjà vu cette idée était aussi un peu marquée l'Église, même les chrétiens en Corinthe, ils avaient parfois du mal, ils voulaient être très axés sur l'âme et l'esprit et le corps, ça les intéressait moins. C'est pourquoi, par exemple, certaines personnes dans l'église, ils pouvaient faire une très belle prière au culte, et puis faire un petit tour à la maison close, voir la prostituée, après le repas fraternel, ça ne leur posait pas de problème. Mon esprit, Dieu s'intéresse à mon esprit, il ne s'intéresse pas à mon corps. Mais Paul, tout au long de cette lettre, il corrige cette idée. Et nous voici donc à la résurrection du corps. Et c'est vrai, sans la résurrection future, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, ne compte pour rien. N'a pas de sens, finalement. Mais s'il y a une résurrection, s'il y a une résurrection de Jésus, comme nous avons vu la semaine dernière, et s'il y a une résurrection, la nôtre, notre corps, eh bien, ça veut dire que notre quotidien est important et notre avenir est merveilleux. Et ce que j'aimerais voir ce matin. Le meilleur cadeau de Noël que Dieu nous a fait, peut-être cette promesse d'une vie éternelle dans un nouveau corps. Voyons cette vérité qui était difficile pour les Corinthiens à accepter à l'époque et qui peut l'être encore pour nous. Mais c'est la grande joie des chrétiens, c'est le grand cadeau de Noël. Alors, ce nouveau corps ressuscité, nous allons voir, et Paul va démontrer ces choses pour ses Corinthiens, ce nouveau corps ressuscité n'est pas un problème pour le Dieu créateur. Ensuite, nous allons voir que ce n'est pas pareil que notre corps actuel, donc rassurez-vous. Et enfin, ce nouveau corps ressuscité est même obligé pour entrer dans le royaume de Dieu, pour hériter le royaume de Dieu. Voyons tout d'abord, ce nouveau corps ressuscité n'est pas un problème pour le Dieu créateur. Parce que les Corinthiens, ils commencent avec cette question, mais comment les morts ressuscitent-ils? Comment ça se passe? Concrètement, comment? Et c'est parfois difficile à imaginer. C'est vrai qu'on a vu Jésus parfois ressusciter des personnes, mais il a redonné vie à des corps qui parfois venaient de mourir, quelques heures, quelques jours après. Lazare, c'était un grand miracle de résurrection, mais c'était juste après la mort. Et donc, encore, peut-être on arrive à concevoir cela, mais à l'avenir, comment les morts ressuscitent-ils? Nous savons qu'après la mort, le corps se décompose, que ce soit par l'inhumation, ou par l'incinération, ou par une sépulture en mer. Le corps se décompose, les molécules n'y sont plus. Alors c'était un peu macabre, mais j'ai même lu une réflexion un peu. Et que pensait par exemple un missionnaire? C'était des vraies histoires. Comment c'est un missionnaire qui se fait manger par les cannibales? Et si ce cannibale se convertit pour la suite? Ou pas se convertit? Est-ce que ça pose un problème pour Dieu? Comment il va gérer tout ça? Bon, vous voyez vite, on dépasse ce qui est matériellement concevable quand on veut essayer de comprendre la résurrection du corps. Mais Paul, il n'est pas inquiet par ces problèmes. Dans les versets 36 à 41, la première partie de notre texte, il montre que Dieu, le Dieu créateur, sait très bien créer et recréer des corps. Pour le Dieu créateur, c'est sa spécialité. Le Dieu qui a créé l'univers n'aura pas de difficulté à ressusciter nos corps, à recréer des corps. Et là, Paul donne trois exemples, des plantes, des animaux et des astres célestes. Vous voyez ça dans les versets 37 à 41. Les plantes, les animaux, la chair des animaux et puis les astres célestes. Et ce qui les relie, en tout cas dans le grec, ce qui les relie, c'est le mot corps. Parce qu'en grec, on peut parler le corps d'une plante, tout comme les corps célestes ou le corps des animaux. Et donc voici tous ces corps que Dieu a su créer dans une grande diversité. Donc, par exemple, la plante, il prend l'exemple de la plante, et ça commence avec une semence. Et donc, cette semence a un corps, on va dire, et tu la plantes, ce corps se décompose, mais après, ça donne un pommier ou une autre plante, un autre corps. C'est la même plante, avec un corps très différent. Ou encore, il rappelle que parmi les animaux, verset 39, toute chair n'est pas la même chair. Donc, les oiseaux, les poissons, les quadrupèdes, ils ont chacun un corps différent, et c'est Dieu qui a créé plein de corps différents dans une diversité parmi ces animaux. Après, il parle des astres, donc il dit qu'il y a des corps terrestres, des animaux, les êtres humains, mais aussi il y a des corps célestes. Alors, c'est vrai, la différence, c'est que les corps célestes ne sont pas vivants comme nous les entendons, mais ça montre toute la capacité que Dieu a créé un monde avec différents corps terrestres, corps célestes. Et il dit que même parmi les corps célestes, il y a des différences. Il y a soleil, lune, étoile, et chacun est plus glorieux que l'autre. Donc, la lune, peut-être vous allez dire, n'est pas très glorieux, parce qu'elle n'oublie pas, mais le soleil à côté, elle brille beaucoup. Mais scientifiquement, c'est fait avec les mêmes molécules, c'est de l'hydrogène, c'est quelques métaux comme ça. Dieu a su réorganiser des molécules pour créer des corps différents. Et Paul dit, c'est pareil pour la résurrection. Dieu saura réorganiser des molécules comme il a toujours su faire pour nous donner un corps de ressuscité. Ne vous inquiétez pas, Dieu est puissant et capable de le faire. Tout cela témoigne de la créativité et la puissance de Dieu, tous ces corps. Donc il ne faut pas limiter notre foi aux limites de notre imagination, de notre expérience, même au décret de la science. Ce Dieu puissant peut créer un nouveau corps. Et bien sûr, comme vous savez, tout est lié dans la Bible. Si on a du mal avec le Dieu créateur, si on a du mal avec le récit de la création en Genèse chapitre 1, on aura du mal avec la résurrection du Christ. On aura du mal à accepter, à croire notre propre résurrection un jour. Mais tout est lié avec ce même Dieu qui donne vie. Si on peut croire comme Marie, lorsque l'ange lui a annoncé l'incarnation, « Rien n'est impossible, dit l'ange, rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie dit « Oui, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ça, c'est aussi l'attitude que nous voulons avoir face à ces versets. Curieusement, les Corinthiens étaient très, très axés sur le spectaculaire, sur le surnaturel, sur le miraculeux, lors de leur rassemblement. Nous avons vu ça dans les chapitres 12, 13 et 14, ça créait même du désordre, parce qu'ils voulaient vivre des choses tellement spectaculaires et miraculeuses. Mais ils sont moins intéressés, ils ont beaucoup plus de mal à moi, ce que je crois être un miracle bien plus important, bien plus beau, le miracle de la résurrection. Et celle de Christ et notre future résurrection. Et Paul veut les ramener à croire dans ce Dieu puissant qui peut donner un corps comme il lui plaît à qui veut. Et c'est aussi vrai pour notre résurrection. Donc, le corps ressuscité n'est pas un problème pour le Dieu créateur. Il va continuer sa réflexion pour nous convaincre de cette réalité de la résurrection future de notre corps en disant... Ah, ce n'est pas pareil que notre corps actuel. Et peut-être c'était là l'obstacle pour les Corinthiens, c'est qu'ils imaginaient un corps pareil que le nôtre actuellement. Et effectivement, qui veut passer l'éternité dans un corps qui est sujet à la fatigue, qui est sujet aux tentations dites charnelles, qui se corrompent. Peut-être les jeunes disent « Oui, mon corps va, tout va bien, je vais encore garder ce corps. » Mais rapidement, on dit « Je suis pas sûr que je vais passer l'éternité dans ce corps humain. » Avec ses défauts, avec ses, tout ce qu'on n'aime pas. Tout le monde trouve quelque chose dans son corps qu'il n'aime pas. N'est-ce pas? Pour citer Cels de nouveau, ce philosophe grec, là encore il a dit « Mais vous les chrétiens, votre espérance est une espérance digne des vers de terre. Car où est l'âme humaine qui désirait de rentrer dans un corps pourri ?» Moi, ils veulent séparer l'âme et ne pas rentrer de nouveau dans ce corps pourri. Donc évidemment, cette résurrection du corps, ça ne les intéressait même pas. Et c'est vrai, ça nous arrive. Vous avez acheté peut-être une voiture, une marque d'une voiture ou une marque d'un téléphone et vous avez beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis avec cette marque ou ce modèle. Vous ne voulez pas racheter exactement le même modèle. Après, vous le ramenez ou vous le jetez. Parfois, en cas de problème grave, vous comptez vous en passer complètement. Ça, j'ai tellement eu de problèmes avec ça, je me passe de la voiture, je prends le vélo. Ou bien vous avez passé vos vacances dans un hôtel qui s'avère être un taudis, vous n'allez pas y retourner. Mais pour les Corinthiens, la résurrection du corps, c'est à quoi ils pensaient. Donc, enfin, débarrassons-nous de ce corps, ne parlons pas de la résurrection des corps. Mais Paul dit, rassurez-vous, en versets 42 à 49, il dit, c'est très différent, c'est pas pareil que le corps actuel. Il dit, le corps actuel, il est semé corruptible. Mais il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé naturel, il ressuscite spirituel. Il dit, voyez le corps, c'est le futur corps ressuscité que Dieu nous donnera est très différent de notre corps actuel. Un peu comme la différence, c'est ça, une des images majeures de ce texte, c'est encore la semence. C'est la différence entre le marron que vous allez acheter, le marron glacé ou le marron rôti que vous allez acheter au marché de Noël, quand vous reviendrez voir la chorale le vendredi en 15 jours. Ce marron-là n'a rien à voir avec un châtaignier magnifique, comme dans les Ardèches ou ailleurs, ce magnifique arbre énorme. La différence est inimaginable entre le grain et l'arbre. Et donc, c'est pareil, c'est vrai qu'il y a un côté inimaginable de ce qui nous attend dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Mais, comme le grain donne l'arbre, aussi, ce corps, cette vie, cédera place à la suivante. Mais les Corinthiens de l'époque ne concevaient pas cette différence, et donc ils voulaient se débarrasser du corps pour exister en tant qu'esprit, en tant qu'âme. Mais au fond, quand on y réfléchit, est-ce que vraiment c'est ce que nous voulons? Qui veut être un fantôme insensible, invisible, flottant dans le vide pour l'éternité? Est-ce que c'est à quoi vous aspirez? Un fantôme insensible, invisible, vapeur dans le vide pour l'éternité. Ça n'intéresse personne. Deux fantômes ne peuvent pas se serrer dans les bras lors des retrouvailles. Quand vous allez retrouver la famille que vous aimez ce Noël, vous allez vous serrer dans les bras, vous allez vous asseoir à une table de fête. Des fantômes ne peuvent pas faire ça. Et vous savez, dans les livres et les films, encore aujourd'hui, c'est souvent une malédiction d'être éternellement condamné à l'état de fantôme, ou l'état de zombie. Sans pouvoir sentir, sans pouvoir goûter. Les jeunes connaissent peut-être Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. La malédiction, c'est être condamné un peu à un tas de fantômes, sans pouvoir sentir, goûter, sans une chair. Et Paul va dire, c'est très différent, mais il y aura encore un vrai corps merveilleux qui nous attend. J'aimerais expliquer un peu ces versets 44 à 49 qui sont un peu difficiles à comprendre. Il fait la différence entre corps naturel et corps spirituel, entre Adam, une âme vivante, et Christ, cet esprit vivifiant, ce qui est spirituel, n'est pas le premier, ce qui est naturel, tout ça, spirituel et naturel. En entendant ces mots, on a tendance de dire la différence entre naturel et spirituel, c'est la différence entre matériel et immatériel, mais c'est pas le cas. La différence pour Paul entre naturel et spirituel, naturel, c'est ce qui vient de la terre, c'est comme Adam, Dieu l'a fait de poussière et lui a donné une âme, ça vient de la terre. Donc la différence entre naturel et spirituel, c'est la différence entre un corps qui abrite une âme sur terre et spirituel, un corps qui abrite l'esprit de Christ qui vient du ciel, qui porte l'image du Christ qui vient du ciel. Donc naturel vient de la terre, spirituel vient du ciel, c'est pas matériel et immatériel. Donc, c'est ça qui est beau. Imaginons un corps parfait qui porte les fruits de l'esprit à l'infini et entouré d'autres personnes qui portent les fruits de l'esprit à l'infini. L'amour, la paix, la joie, la douceur. Tout ça, on sera habité par l'esprit de Christ parfaitement avec un corps parfait. Et ça, je trouve beau. Bien meilleur parfois que des visions de l'éternité qui sont tellement dématérialisées que ça n'intéresse personne. Si je vous disais le ciel, le paradis, l'éternité sera un culte d'église qui dure des milliers d'heures, beaucoup d'hommes ici diraient c'est quand le match déjà et quand c'est comment et non merci. Non merci à un culte d'église qui dure 1000 heures. Personne veut ça. Alors, mais ce n'est pas la conception biblique de l'éternité. Alors, on se pose des questions, est-ce qu'il y aura du foot au ciel? Est-ce qu'il y aura des randonnées? Mais pourquoi pas? Puisque Dieu a su créer ces choses une première fois et va les refaire à neuf, mais de manière beaucoup, beaucoup mieux. Alors, bien sûr, le but de ce nouveau corps n'est pas de poursuivre les plaisirs charnels, sexuels, autres, avec lesquels certaines religions essaient de motiver leurs adeptes. Notre corps, comme ces versets disent, sera incorruptible dans tous les sens. Incorruptible physiquement, sans maladie, mais incorruptible aussi le péché et le mal que nous pouvons faire, puisqu'étant rempli de l'esprit dans un monde sans péché. Et donc nous allons poursuivre des activités et des choses qui sont parfaites et pures et saintes, mais pas seulement en tant que fantôme, avec un vrai corps. Et c'est pour ça que je trouve la vision chrétienne est bien meilleure que tout ce que je vois ailleurs. On peut dire après la mort il n'y a rien, mais est-ce que ça répond à tous nos problèmes, toutes nos interrogations, toutes nos aspirations d'être un jour de retrouver nos êtres chers, de donner un sens à notre vie ici-bas? C'est bien meilleur qu'une réincarnation, de revenir de différentes formes d'animaux en fonction de si on était sage ou pas sage. C'est vrai que le nouveau corps est très différent, mais c'est un corps comme celui de Jésus après la résurrection. Et c'est le corps de Jésus, comme nous avons vu la semaine dernière, c'est sa résurrection qui est une image, un prototype pour la nôtre. Jésus, il pouvait reconnaître ses disciples, par exemple. Et eux, ils pouvaient le reconnaître. Peut-être pas tout de suite, mais après, ils l'ont bien vu, c'était Jésus. Il pouvait reconnaître ses disciples, il pouvait reconnaître et se souvenir de son amitié pour eux. Il pouvait cuisiner un repas et manger avec eux. Il pouvait encore leur manifester son amour. Toutes ces choses que finalement nous, auxquelles nous aspirons, ces relations profondes, remplies d'amour, nous allons pouvoir les poursuivre. A priori, nous serons toujours hommes et femmes dans la résurrection. Parce que Jésus n'est pas ressuscité autre que Jésus, cet homme, qu'on l'a toujours connu. Même s'il n'y aura pas de mariage, voilà, les hommes et femmes, nous conserverons certains traits de notre ethnie, de notre culture, je pense, puisqu'Apocalypse parle des langues, des différentes langues, de toutes tribus, de toutes ethnies qui sont autour du trône. Et tout ça, c'est beau. Ça montre que ce que nous vivons ici-bas va porter du fruit à l'éternité. C'est la seule vision, je dirais, qui valorise notre vécu, notre expérience ici-bas, et qui offre une continuité, un lien avec l'éternité. On serait pas, il n'y aura pas un lavage de cerveau en passant la mort où on va se rappeler de rien. Il va essuyer nos larmes, les souvenirs douloureux sont passés, seront effacés, mais nous allons nous rappeler de ce que nous avons vécu et Dieu nous donnera un sens riche à tout cela. Alors nous pouvons terminer enfin avec ce troisième point. Ce nouveau corps est même obligé pour hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas facultatif finalement. Les Corinthiens qui disent non, ça ne m'intéresse pas, un nouveau corps, Paul va dire non, non, il en faut même. C'est obligé pour hériter le royaume de Dieu. Les versets suivants, verset 50, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors verset 53, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité pour être avec Dieu. Vous savez, un poisson a besoin d'un certain corps pour habiter dans l'eau. Notre corps n'est pas adapté à habiter en permanence dans l'eau. Il nous faut un autre corps, il nous faut d'autres habits, il nous faut une autre constitution. Ce qui explique pourquoi même ceux qui sont vivants, même ceux qui ne passent pas par la mort, eux aussi ont besoin de ce nouveau corps. Ce n'est pas que pour les morts où le corps est décomposé, ce sera aussi pour les vivants. Il dit en verset 51, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Nous aussi nous serons changés, même les vivants seront changés, parce qu'on a tous besoin d'un autre corps pour entrer dans la présence de Dieu. Même un corps en bonne santé ici-bas n'est pas adapté à la gloire éternelle et a besoin d'être changé pour vivre éternellement dans dans cette gloire devant Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne ce cadeau d'un nouveau corps pour nous donner pleinement accès à sa personne, à son amour, à son royaume, pour habiter ensemble avec nous éternellement. Et c'est pour ça que je dirais le nouveau corps, bien sûr, n'est pas une fin en soi. On pourrait s'attacher trop au corps. Oh, sympa ce corps. Mais ce n'est pas une fin en soi. Le plus important, c'est d'être avec Dieu. Il a réglé toutes ces choses pour nous donner accès à Dieu. Et tout ça nous ramène à Noël. Jésus a pris un corps humain, lui, l'incarnation. Dieu fait homme, Dieu fait chair. Les philosophes grecs qui disent que c'est absurde. Non, ce n'est pas absurde. C'est rempli d'amour. Dieu a pris un corps humain en Jésus pour encaisser cet aiguillon de la mort, pour porter sur son corps la peine de nos péchés, subir la condamnation de la loi à notre place. C'était ça la croix. Et donc c'est parce que Jésus a fait cela que Ésaïe pouvait déjà annoncer cette prophétie. Un jour, la mort sera engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que l'aiguillon de la mort, c'est les péchés, la puissance du péché, c'est la loi. Mais c'est Jésus, en devenant homme, qui a géré ces choses. Il a pris l'aiguillon de la mort, qui est le péché, sur lui. Il a subi les conséquences de la loi à notre place, pour nous en délivrer. Et aujourd'hui, ce matin, nous pouvons dire merci. Merci, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la victoire. C'est ça le cadeau de Noël. Alors, il nous laisse une conclusion très pratique, et je termine avec cela. Il dit en verset 58, et c'est le résumé de ce, c'est le mot finale de ce chapitre sur la résurrection, d'abord celle de Christ et ensuite celle de notre corps que nous avons étudié ce matin. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est une conclusion très pratique à être ferme, inébranlable et à continuer à travailler ici-bas, dans notre quotidien, dans notre vie présente, sachant que ce que nous vivons, ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas en vain à cause de la résurrection de Christ. Et cette vision du monde et de l'avenir, il me semble, nous garde de deux mauvais penchants qui sont d'actualité à notre époque. Le premier travers, je dirais, c'est de vivre comme si ce monde visible, c'est tout ce qu'il y a. Mais la résurrection dit que non, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Et on peut investir dans l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est souvent les choses invisibles, c'est des choses qui portent du fruit pour l'éternité, mais il appelle les chrétiens à s'investir de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est vrai que notre corps actuel, notre planète actuelle, tout ce que nous voyons autour de nous actuel, ne sont pas des choses éternelles. Et donc, nous ne voulons pas exagérer et investir tous nos efforts dans des choses qui ne vont pas durer éternellement. Donc, parfois, il y a un acharnement, une exagération qu'on peut faire dans les soins esthétiques, les soins du corps, les soins médicaux, les soins environnementaux, en pensant devoir soigner et sauver ce corps mortel ou cette planète, à tout prix, comme si tout notre bonheur et tout notre salut dépendent de la santé de notre corps actuel. Mais c'est faux. La Bible nous appelle à regarder les choses invisibles, sachant que les choses visibles, ce corps est en train de se détériorer. Et nous passons notre espérance, notre salut dans les choses invisibles. Donc, un travers, c'est de vivre comme si ce monde, il y a tout ce qu'il y a. Ce corps, c'est tout ce qu'il y a. Et ça va nous conduire à des problèmes. Mais l'autre extrême, c'est de s'en moquer complètement de ce corps actuel, ou de cette terre, ou de cette planète, en disant, de toute façon, tout va brûler, tout va disparaître, tout va se corrompre, donc je peux la maltraiter, je peux la négliger, c'est du déchet finalement. Mais non, on a vu les Corinthiens, ils n'avaient pas le droit de dire Dieu ne s'intéresse pas à mon corps, il s'intéresse que à mon âme ou à mon esprit. Non, la résurrection du corps veut dire que ce n'est pas le cas. Tout comme le pommier ou le châtaignier final, il ne peut pas dire « je ne m'intéresse pas à la semence ». Non, c'est grâce à cette semence qu'un jour, il devient ce châtaignier. De la même manière, ce que vous faites aujourd'hui dans ce corps, dans cette vie, dans ce monde, dans cette église, n'est pas en vain. Ces choses ont un sens et vous pouvez plaire à Dieu aujourd'hui avec votre corps, avec votre être. Tout ça à cause de la résurrection. Ce que vous faites aujourd'hui pour Jésus n'est pas en vain, sachant qu'il est ressuscité. Et ce monde n'est pas tout ce qu'il y a. Le travail ne sera pas en vain, parce qu'il va prendre ce que vous faites comme une semence et le faire éclore dans quelque chose de merveilleux. Alors je vous laisse avec une exhortation, une charge, un appel. Ce Noël, faites quelque chose avec votre temps, votre argent ou votre corps qui n'a que de sens si la résurrection est vraie. Ce Noël, faites quelque chose avec votre temps, votre argent, votre corps, qui n'a que de sens si la résurrection est vraie, comme nous l'avons étudié ce matin. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette vision de l'avenir possible par l'incarnation et la résurrection de Jésus-Christ. Merci parce que tu as pris un corps humain, tu as valorisé notre existence, mais ce corps humain, tu l'as pris aussi pour mourir à notre place, pour porter notre condamnation, notre châtiment, pour te substituer à nous, à la mort, pour ensuite nous donner la vie éternelle. Et cette vie éternelle, comme nous l'avons étudié ce matin, c'est une vie de fête, c'est une vie de joie, c'est une vie merveilleuse, c'est une vie réelle, c'est une vie concrète. Et voilà ce qui nous attend en tant que tes enfants. S'il y a des personnes ici ce matin qui ont du mal avec cette vérité ou qui se posent des questions, nous te prions qu'ils trouvent des réponses dans ta parole, dans ce chapitre ou comme d'autres passages de la Bible. Et nous te prions qu'ils voient que voilà, ce que tu nous offres, cette bonne nouvelle en Jésus-Christ, est bien mieux que tout le reste que nous pouvons trouver dans ce monde. Accompagne-nous pendant ce temps de Noël. Aide-nous à vivre avec les yeux sur aussi l'éternité. pas que ici-bas, sur l'éternité aussi. Merci pour ce culte que nous avons pu te rendre ensemble ce matin. Continue à être avec nous tous les jours, dans notre quotidien, dans notre expérience corporelle. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.